Joyeuse Pâques à tous. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et ce n'est pas que des paroles. Pâques, c'est... Ça change la vie. La vie présente et la vie éternelle. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi le Seigneur avait choisi, parce qu'en fait, compte, c'est lui qui a choisi le moment où il est arrivé, le moment où il est mort, comment il s'est laissé mourir, comment il s'est livré en sacrifice pour nous-mêmes, pour nous. Pourquoi il avait choisi la croix? S'il y avait des façons de mourir pour les hommes, il y avait des façons beaucoup moins pénible, beaucoup moins terrible. La croix est un supplice des plus odieux où la souffrance physique est à son paroxysme. On ne va pas trop élaborer, mais juste en introduction, le fait que il a choisi ce mode de sacrifice pour nous rappeler que le péché, c'est grave. Pour nous montrer l'aspect terrible du péché qui a conduit le Fils du Dieu vivant, Dieu le Fils, à venir mourir de cette façon terrible. Et on a souvent tendance à excuser nos péchés, à nous justifier en disant c'est pas de ma faute, c'est la société, c'est pas de ma faute, ce sont mes parents, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ma femme ou c'est à cause de mon mari ou c'est parce que j'ai pas de mari ou que j'ai pas. On a toujours des recherches d'excuses, mais en fin de compte il nous faut reconnaître que je suis coupable. Et la deuxième raison peut-être pour laquelle Jésus a choisi cette mort terrible, c'est pour sympathiser au maximum avec nos souffrances, nos problèmes. Nous avons tous des difficultés, des peines, des chagrins, des fois des choses terribles, des fois des choses... Récemment, on en parlait avec quelqu'un, On a la loi des séries, où il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, puis il y a quelque chose qui vient se rajouter, puis une autre chose, et on a l'impression qu'on va craquer. Et si quelqu'un avait le droit de craquer, c'était bien Jésus-Christ. Injustement condamné à mort, moqué, fouetté, avec des fouets munis de bouts d'os et de métal sur les lanières afin de déchirer la peau. Et pourtant, malgré cette souffrance physique, et on verra aussi cette souffrance morale et spirituelle terrible, sur la croix, il pensait encore à nous. On entend parler souvent du sermon sur la montagne, à juste titre. On l'a étudié en étudiant le livre de Luc. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sermon sur la croix. Et ce sermon sur la croix, c'est en fait cette parole de Jésus-Christ qu'il a prononcée à notre intention, lorsqu'il était dans la plus grande des souffrances, dans la plus grande des détresses, dans la plus grande des solitudes. Ce sermon, il l'a prêché en quelques paroles. On pourrait dire qu'il a, jusqu'au bout, il a fait un sermon en 7 points, comme des fois on l'apprend à le faire dans les séminaires. 7 points, le nombre parfait, le nombre de ce qui est complet. sept jours de la semaine, sept notes dans la gamme musique de musique, sept églises dans l'Apocalypse, sept points, sept paroles sur la croix, les dernières paroles de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est que il faut parcourir les évangiles, les récits de la crucifixion de Jésus pour rassembler ces sept paroles. Il ne l'a pas livré comme un sermon tout préparé, mais il faut aller voir un peu dans les différents évangiles. Tous parlent de cette crucifixion et tous parlent de la résurrection. C'est ce que nous célébrons en ce jour de Pâques. Mais il est important, je crois, de voir quel était le cœur de Jésus pour nous, pour vous rassurer qu'il pensait à vous. Le premier point, on va le trouver dans Luc 23, 34. Nous sommes en train d'étudier Luc, nous sommes au chapitre 22, mais là je vais sauter un peu, et on va aller voir dans les autres évangiles aussi pour composer ce sermon sur la croix. Luc 23, 34, on va peut-être commencer à partir du verset 33. On va même commencer à partir du verset 26. Luc, verset 26 du chapitre 23, c'est la page 100 dans la Bible à la colombe, si on vous a passé une Bible. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient, celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Car voici, des jours viendront où l'on vous dira « Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne ou Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et ce verset, ce premier point, Jésus dit « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, Jésus nous l'a enseigné de la plus forte, la plus frappante, la plus terrible des façons. Lui qui était injustement supplicié, condamné, qui avait été déjà frappé, on va voir qu'ils allaient continuer à se moquer de lui. Lui, le Dieu, créateur de l'univers avec le Père, ils allaient même, on allait voir les soldats s'approcher de lui, le frapper. Et lui, au lieu de se dire je vais vous avoir un jour, vous verrez, il aurait pu appeler des légions d'anges et retourner la situation d'un seul coup. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On dit que lorsque l'on pardonne quelqu'un, on libère un prisonnier, et que ce prisonnier, c'est nous-mêmes. Lorsqu'on a du ressentiment, de l'amertume envers quelqu'un, qu'on veut se venger, en fait, on est prisonnier. On est les plus malheureux. La personne qui nous a fait du tort a peut-être complètement oublié qu'elle nous a fait du tort, qu'elle nous a blessés. Mais nous, si nous gardons, si nous entretenons cette douleur et que nous nous rappelons sans cesse ce que des paroles de la personne, voilà-t-il pas ce qu'elle m'a fait, tu ne peux pas savoir ce qu'elle m'a fait. Oublier, pardonner. Pardonner, c'est donner à l'autre, de lui dire, je ne vais pas user de vengeance envers toi. J'oublie, je pardonne. Et ça, c'est quelque chose de qui n'est pas humain. Notre nature, c'est de faire mal en retour. Tu m'as fait quelque chose, j'ai été blessé, maintenant c'est mon tour de te blesser. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Il y avait une héroïne de la résistance, une Hollandaise nommée Corrie ten Boom, qui est bien connue parce qu'elle a écrit des livres. Elle a été en camp de concentration où sa famille a été torturée, elle a perdu sa sœur. Et un jour, plusieurs années après avoir survécu, un homme est venu la voir, qu'elle n'avait pas reconnu tout de suite, mais en fait c'était un de ses geôliers, un de ses nazis qui l'avait fait souffrir et qui avait causé la mort de sa sœur. Et elle disait, il était venu, lui avait dit, chère Madame ten Boom, vous allez être contente de savoir que je suis devenu chrétien. Et j'ai voulu vous voir pour vous demander pardon pour ce que je vous ai fait. Et elle écrit, ou elle parle dans ses rapports, lorsqu'elle raconte cet épisode, elle est morte maintenant, mais on peut encore voir la vidéo où elle raconte cette histoire. Elle a dit qu'elle c'était absolument impossible pour elle de pardonner cet homme qui avait fait souffrir tant de monde, qui avait tué sa propre sœur. Elle lui a dit, monsieur, je ne peux pas vous pardonner. Et là, elle a senti que Dieu lui parlait. Elle ne pouvait pas le faire, mais elle a dit à cet homme, je ne peux pas le faire, mais à travers la puissance que me donne Jésus de pardon, je vous pardonne. Et elle raconte qu'à ce moment-là, c'est comme une chape de plomb s'était levée d'elle, une chape de plomb qui l'écrasait dans sa vie. Le fait qu'elle ne pouvait pas pardonner, qu'elle était remplie d'amertume. Elle était chrétienne, elle savait qu'on devait pardonner. Mais ça, c'est un conseil aussi, il y a des fois où on ne peut pas pardonner soi-même. Mais Jésus, par la puissance de Jésus, en faisant appel à lui, on peut pardonner les autres, quoi qu'il nous ait fait. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en suis sûr, mais pensez-y lorsqu'il y a des fois des choses qui vous font tellement de mal, qui peuvent avoir changé le cours de votre vie, avoir ruiné votre vie, avoir ruiné vos espérances. Si vous vous attachez à cette amertume, si vous vous attachez à ce désir de vous venger, vous êtes prisonnier, vous n'êtes pas libre. Jésus nous donne un exemple incroyable. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En ce moment, de par le monde, il y a des chrétiens persécutés, de façon terrible. Nous avons des amis au Niger. Nous avons des amis au Nigeria, nous avons des frères et sœurs qui sont en Irak, en Turquie, en Syrie. Et là, si vous ne renoncez pas à Jésus-Christ, vous pouvez mourir sous la main des djihadistes. Imaginez les familles de ces martyrs. Ce n'est que par la puissance de Jésus qu'ils peuvent pardonner. Et le pardon, il touche, parce qu'il vient d'un autre monde. Il vient du ciel. Ce n'est pas une façon de nier les problèmes, nier les faits, mais c'est une façon de se libérer et de libérer les autres. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne réalisent pas. Bien souvent, lorsque les gens nous font du mal, ils ne savent pas qu'ils nous font tellement de mal. Ils n'imaginent pas les conséquences de leurs mauvaises actions. Notre réaction, encore une fois, c'est de nous venger. Père, pardonne-leur. C'était le premier point, le point du pardon que Jésus nous enseigne. Un peu plus loin, dans Luc 23, 43, on va continuer à lire après le verset 34, à partir du verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant : Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui : N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit des reproches et dit : Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, son deuxième message pour nous depuis la croix : En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est le point du salut, de notre salut. Deux personnes qui ne valaient pas mieux l'une que l'autre. Deux malfaiteurs qui méritaient d'être condamnés à mort, et l'un d'eux le reconnaît volontiers. Nos actes ont mérité cette mise à mort. Mais peut-être avait-il entendu Jésus dire : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça l'avait bouleversé. Ça l'avait bouleversé, et il avait cru que cet homme qui mourait à côté de lui était vraiment le Messie, le Fils de Dieu, et qu'il avait la puissance de l'emmener avec lui au paradis. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Quelle est la différence entre ces deux malfaiteurs ? Ce n'est pas l'importance de leur crime. La seule chose qui les différencie, c'est leur foi. Un a la foi en Jésus, l'autre ne l'a pas et continue de se moquer, de ridiculiser, de blasphémer. Nous sommes instruits par la parole que c'est seulement par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos actes, nos bonnes actions. On a souvent la fausse conception qu'un jour on sera devant Dieu et que là, avec sa grande balance, il mettra d'un côté les péchés, les mauvaises actions, et de l'autre côté nos bonnes actions. Et on espère que ça penchera du bon côté ou qu'il laissera une petite marge au cas où ça pencherait du mauvais côté, mais pas trop. Nous avons tendance à juger comme on juge en tant qu'homme, par une échelle relative. Mais Dieu ne peut nous accepter que si nous sommes parfaits. Si nous sommes déclarés justes, déclarés innocents. Ce matin, on a entendu un message très juste sur le fait que la résurrection, elle accomplit notre justification. C'est une autre étude dans le livre de la lettre de Paul aux Romains. On voit que cette crucifixion suivie de cette résurrection, c'est elle qui nous justifie, qui nous de coupables que nous sommes, si nous sommes honnêtes, nous reconnaissons que nous sommes tous des coupables. Alors peut-être on n'a pas tous tué quelqu'un, mais Jésus nous disait que si on dit du mal de quelqu'un, ça procède de la même intention. Peut-être qu'on n'a pas commis l'adultère, mais si on a regardé une jeune femme avec du désir,